Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir toute l'équipe de l'Étoile Polaire réunie dans le studio. Pierrick, Axel, Rémi et Fred qui vous parlent.
Oui, bonjour. Bonsoir à tous et à toutes.
Salut, salut.
Et on est même plus que toute l'équipe.
Et on est même plus puisqu'on a un invité dans la rubrique Nouvel Œil, c'est Alex.
Bonsoir.
Alors, c'est le 94e épisode de l'émission. On vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver toutes les émissions depuis le début sur le podcast qui se trouve sur le site de RDIWA, rdwa.fr. Vous allez dans émissions thématiques et vous trouvez l'Étoile Polaire avec toutes les émissions et les photos, les belles photos du ciel qu'Axel et Rémi font dans leurs heures perdues pendant les nuits. Et qui vous montre un peu tous ces beaux objets qu'on peut observer au télescope. On en profite aussi pour faire un petit appel, on l'a dit dans l'émission précédente, mais l'Étoile Polaire va s'arrêter à Noël, après plus de 5 ans d'émission, sauf si on trouve des repreneurs. Alors vous qui nous écoutez, si vous avez envie de venir faire de la radio, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, qu'on vous montrera un petit peu les ficelles. Et si vous avez envie de vous réapproprier cette émission et de continuer à la faire vivre, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donne le mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com. Voilà. Et puis, on en reparlera, mais pour la 100e émission, on prépare une fête. Et on vous dira un peu... Ce qu'on préparera pour ça. Alors, le sommaire de cette émission, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir, un peu les constellations qui sont visibles en ce moment, les planètes. Ensuite, ce sera donc la rubrique Nouvel Œil avec Alex, qui va nous parler un petit peu de son rapport au ciel, de sa pratique de l'astronomie. Ensuite, ce sera la rubrique Abrac. Avec Rémi qui en fait a complètement repris le télescope de 300 mm de l'Astroclub du Diwa et l'a transformé en une bête de compétition. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a bricolé. Et puis après la pause musicale, ce sera la chronique astrale et cette semaine je vous parlerai de Giordano Bruno qui est un pilier de l'astronomie et qui a vécu au Moyen-Âge. Voilà pour ce sommaire. Alors on commence avec le ciel ce soir, et Axel, c'est toi qui vas nous faire rêver aujourd'hui.
Le ciel de ce mois d'octobre, de ce début d'automne et de cette fin d'été où on voit finalement, il ne porte pas si bien son nom, ce triangle d'été qui est très haut dans le ciel dès que la nuit est tombée, c'est le moment de l'année où il est le plus haut. On a oui, quand la nuit tombe, Vega qui est quasiment au zénith. Et du coup, un très bon moment aussi pour voir la Voie lactée, puisque ce triangle d'été est traversé de part en part, du sud au nord, par cette Voie lactée. Et ça offre toujours un beau spectacle. En termes de constellations, eh bien, c'est le moment... de l'année où on commence à retrouver assez facilement et assez tôt, partant de l'Est, les Pléiades, qui se lèvent vers 22h, 23h. On peut commencer à apprécier ce petit groupe d'étoiles qui interroge souvent les curieux qui lèvent les yeux au ciel. Et ils se mettent, c'est quoi ces étoiles regroupées, hein ? Si vous posez cette question, 80% de chances que ce soit les Pléiades, si ce n'est pas plus. Un peu plus au nord, pas très loin des Pléiades, une étoile très brillante aussi qui se remarque très facilement, c'est Capella, dans la constellation du Cocher, qui forme un... Comment on décrirait le Cocher ? Une sorte d'hexagone, un petit peu
Une
maison, pourquoi pas. Ouais. Polygone, ça me va. Avec une étoile bien brillante en haut, donc Capella.
Capella qui est en limite, qui même appartient à la zone circumpolaire, il me semble, oui. Où elle est vraiment en limite... On la voit quasiment tout le temps, Capella.
Presque, ouais.
Et Vega, pareil. Vega, elle n'est pas dedans, mais elle est limite.
Oui, c'est à peu près la même distance, l'une et l'autre, de la polaire. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La grande ours qui, au moment du coucher, est bien à plat. Là, c'est bon, c'est le moment de faire cuire ses pâtes dans cette grande casserole, sans en mettre partout. puisque je rappelle, il y a des moments où on la voit dressée sur son manche, des fois où elle plonge vers l'horizon, et là, c'est des fois où elle est à l'envers. Mais là, on est dans le moment de l'année où elle est bien à plat en début de nuit.
Oui, parce que si on attend la fin de nuit, elle est
ah oui, là, elle commence à se dresser, ouais. Ouais, justement.
La casserole porte bien son nom à ce moment.
Oui, c'est ça. C'est le moment le plus simple pour la retrouver, finalement, parce que les gens trouvent facilement la casserole quand elle a cette forme, quand elle est droite, quoi, on va dire. Quand elle est retournée, ça peut être un peu dur de la retrouver. Voilà, c'est le moment de faire ses adieux à Antares, qui se couche à 21h30, 22h. On peut la voir vraiment tout début de nuit, cette géante rouge, une des plus grosses étoiles que vous pouvez observer. Alors, à l'œil nu, on ne se rend pas compte forcément qu'elle est grosse, si ce n'est qu'elle est brillante. Quand on sait sa distance, là, on peut estimer qu'elle est très grosse, puisque c'est pas une des plus lointaines, mais ça commence à se compter en centaines d'années-lumière. Et puis pour les planètes, eh bien la star du moment, j'aime bien cette expression en astronomie, la star du moment, c'est Saturne, qui est là dès le tombé de la nuit, hein, contrairement à cet été où il fallait attendre. Au mois de juillet, on était couché quand elle arrivait. Au mois d'août, c'était un peu mieux, en fin de soirée. Mais là, ça y est, Saturne, dès la tombée de la nuit, est visible à l'est, pas très loin de Pégase, entre les poissons et le Verseau.
Le Verseau, ouais.
Mais bon, qui sont des constellations pas si flagrantes que ça, non. Alors que le grand carré de Pégase, lui, on peut le trouver. Donc voilà, un peu plus bas sur l'horizon par rapport à Pégase, c'est Saturne, cette étoile bien brillante et un peu jaune que vous voyez, et qui ne scintille pas.
C'est et qui donc n'est pas une étoile.
Ouais, c'est ça. Et puis, de la même façon, eh ben, Jupiter se rapproche aussi. Alors Saturne, on vient de passer là, il y a 2 semaines, ce qu'on appelle l'opposition, le moment de l'année où elle est le plus proche de nous, le moment où c'est aligné, où il y a cet alignement Soleil, Terre et Saturne en l'occurrence. On vient de la passer, cette opposition, donc maintenant Saturne s'éloigne petit à petit, son éclat va faiblir, et donc ça, c'est encore tout à fait le moment de l'observer dans un instrument. Et Jupiter, donc, qui elle, tout cet été, ne se levait que aux lueurs de l'aube, commence à être visible aussi. Alors là, il faut être un peu plus motivé, hein, c'est à 1h30, 2h du matin pour qu'elle se lève.
Ou matinale.
Ou voilà, soit couche tard, soit couche tôt, effectivement. Et à ce moment-là, il y a 2 étoiles bien, bien visibles, 2 planètes en fait. Jupiter qui est bien haute et Vénus un peu plus près du Soleil. Qui ne va pas être là pour très longtemps, je crois. Vénus, elle se rapproche du Soleil. On a passé le moment où on la voit en perspective au plus loin du Soleil, donc le moment le plus confortable pour la voir.
J'ai fait une belle observation de Vénus. Il y avait un tout petit croissant, mignon, et Vénus juste à côté, dans le ciel
avec
un peu bleu du matin.
La lune, la lune à côté,
oui. Oui, la lune. Dans le ciel bleu du matin, là, c'était très très beau, un beau moment.
Oui, parce qu'il y a eu, pareil, il y a 2 semaines à peu près, une occultation de Vénus par la Lune. La Lune est passée devant Vénus au cours d'une nuit. Voilà, et puis un tout petit point d'actualité, mais en restant dans ce que vous pouvez observer en ce moment dans le ciel, eh bien c'est la présence de comètes qui sont visibles, au moins une à l'œil nu. La deuxième, c'est un peu plus dur, mais aux jumelles, ça devient assez simple. Je n'ai plus les magnitudes, la brillance en tête, mais j'ai leur position pour ce mois d'octobre. La comète Swan passe sous la Grande Ourse, donc c'est plutôt au matin qu'on peut la voir, quand la Grande Ourse se relève, elle est au niveau de la patte arrière. Et la comète Lemon, elle va traverser le bouvier, elle vient des chiens de chasse, et elle s'éloigne vers l'ouest petit à petit. Elle va traverser le bouvier, se rapprocher du Serpentaire tout au long de ce mois. Elle sera pas très haute finalement, on parle de 15 degrés d'élévation, alors que Swan monte plus haut, jusqu'à 35 degrés, mais elle est un peu moins brillante.
Voilà. Magnitude 7 pour l'instant, ouais. Limone.
Ah oui.
On a aussi là la présence de la comète Icée-Atlas, là, dont beaucoup de monde parle.
La comète Troyes-Atlas. D'ailleurs, on dit comète, c'est même pas le bon terme, parce que c'est un petit peu des propriétés des comètes, à savoir de la glace, mais en même temps un peu des propriétés des astéroïdes, plus rocheux. C'est un peu entre les deux. C'est ce qu'on appelle, ça n'a pas encore de nom officiel, mais pour l'instant on appelle ça les objets interstellaires, OI. D'où son nom de 3I pour interstellaire. Et 3 parce que c'est la troisième qu'on découvre. La première comète interstellaire. Je dis comète pour faire simple, mais c'était Oumuamua, c'était en 2016, si je me souviens bien. Il y a eu Borisov en 2019. J'ai un doute sur la date, mais je crois que c'est ça. Et cette troisième, là, qu'on vient de découvrir, donc un objet qui vient d'un autre système solaire, qui a une trajectoire qui va être accélérée par le Soleil, d'ailleurs, et qui a une trajectoire qui ne peut pas être interprétée par quelque chose de déjà présent dans le système solaire. Donc ça vient d'une autre étoile, et ça va repartir vers une autre étoile qui, d'ici quelques millions d'années, hein, probablement, parce que ça ne va pas à la vitesse de la lumière comme un vaisseau dans un film.
Elle va quitter assez vite le système solaire parce qu'elle est très très rapide. Hein. Elle va à 200 000 km/s. Donc on est à peu près, on est bien 10 fois plus rapide que la plupart des objets qui se baladent dans le système solaire.
C'est l'ordre 200 000 km/s.
Kilomètre-heure. Pardon, ouais. 200 000 km. Attends. Oui.
Sinon, on est pas loin de la vitesse de la lumière. Ouais. Comment ça fait
non, pardon. Oui. Et en tout cas, voilà, on est 10 à 20 fois plus rapide que les... non, c'est 200 km/s, je crois. C'est ça le truc.
Ah, okay.
Par rapport à 10 ou 20, qui est la vitesse un peu classique, en fait, de déplacement dans le système solaire.
Okay.
On vous renvoie à l'émission précédente, on en a parlé déjà de cette comète. Mais en tout cas, elle fait couler beaucoup d'encre. Il y a encore des gens là, qui m'ont interpellé dans la semaine là, à ce sujet. Un tas de personnes sur les réseaux sociaux qui pensent que c'est peut-être un vaisseau spatial, ou etc. Donc ça s'agite pas mal là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui
en profitent,
qui imaginent des choses. Ouais. Mais en tout cas, c'est clairement un objet super intéressant d'un point de vue astrophysique. Et puis, tout simplement, c'est fascinant aussi parce qu'il vient d'ailleurs, quoi. Il vient d'un autre système solaire, un autre système stellaire. Et c'est pas tous les jours.
Je l'ai vu la semaine dernière.
T'as eu cette chance.
C'était émouvant un peu. Sur écran, en photo, des photos de 3 minutes de pause, je crois, avec quelques secondes d'intervalle, et on voit entre les étoiles un petit point qui bouge. Juste de savoir que c'est un caillou venu d'une autre étoile, enfin d'un autre système, je trouvais ça pas mal. Ouais.
Alors pour compléter un peu ce tour du ciel, j'ai envie quand même de mentionner le fait qu'en fin de nuit, en deuxième partie de nuit, il y a quand même Orion qui se lève. Et c'est vrai que si vous avez un peu la patience ou si vous vous levez tôt, il y a vraiment à l'est un très très beau ciel avec Orion, donc Sirius dans le grand chien, et on a aussi le taureau. Et puis voilà, et donc tu as mentionné les Pléiades, hein, au voisinage du taureau, c'est un amas ouvert qui est observé depuis des millénaires. Hein. Les gens disent qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est en fait, ça fait très longtemps que tout le monde se demande. Les gens se sont demandé ce que c'était ce petit groupe d'étoiles. Et puis voilà. Et puis donc dans les Gémeaux, juste sous Castor et Pollux, vous avez très brillante Jupiter. On peut mentionner aussi que en ce moment c'est une bonne période. Alors là, il faut un télescope, mais pour observer Uranus et Neptune.
Ouais.
Et on peut même en ce moment observer donc Cérès, la planète naine qui orbite dans la ceinture d'astéroïdes, qui se trouve dans la constellation de la Baleine, à côté de l'étoile Deneb de la Baleine. Alors ne pas confondre avec Deneb dans le signe.
Ouais.
Il y a un H en plus là dans l'écriture, c'est D-H-E-N-E-B. C'est une autre étoile. Mais,
Deneb Kaitos.
Voilà. Donc la Baleine, c'est assez bas sur l'horizon. On est sous les poissons, donc c'est bas. Mais voilà, il y a peut-être moyen, si vous avez un horizon dégagé et un télescope, d'observer ce petit point Cérès. Voilà pour ce tour du ciel.
Ouais.
Alors j'ai fait une petite erreur dans l'énoncé là du sommaire. On va passer à la rubrique à braque. Et donc Rémi, tu vas nous parler de la réflexion du 300. Alors 300, ça veut dire 300 mm, ça veut dire 30 cm de diamètre pour le miroir primaire du télescope.
Jusque-là, on est bon.
Donc c'est un télescope qu'on avait acquis au tout début de l'aventure de l'étoile polaire et que vous avez probablement déjà vu si vous êtes venu observer avec nous lors des soirées publiques. Et donc qui était sur une monture Dobson, une monture équatoriale sans frein qui se déplace, qui se bouge à la main en fait, hein, directement. Et c'est vrai que c'était une vieille monture, assez lourde, pas très pratique. Et donc là, Rémi, tu as décidé de tout reprendre à zéro, de garder juste les miroirs. Et donc pour ceux qui sont venus nous voir à On the Moon Again,
début juin,
sur la place de la République, a dit le télescope était visible. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens. Donc Rémi, tu n'étais pas là pour voir ça. Mais il y a
quand même, les fleurs.
Ouais, plusieurs personnes qui sont quand même un peu tombées en admiration devant ton travail. Donc, tu vas nous raconter un petit peu tout ça.
Bah oui, bah le principal, c'est que ça serve, dans tous les cas.
Donc, ça sert et c'est super pratique. Enfin, c'est beau, oui. C'est compact, ouais. Ça marche super
c'était
bien.
Un
c'est
peu
du
le,
super boulot.
L'idée de l'évolution du 300. Donc pour la petite histoire, c'était quand même un tube d'1,70 m de haut, d'un tenant, pour un poids total avec la monture autour de 60 kg.
C'était intransportable le tube en entier là, c'était
à deux déjà,
un enfer.
C'était
galère,
c'était déjà pénible. Ouais. Et donc on avait fait avec Pierrick une première évolution
en le coupant la tête.
2021 sûrement, quelque chose comme ça, 2020. Et en coupant le tube et en mettant ce qu'on appelle des tubes serruriers, des triangulations de tubes du haut vers le bas, qui tiennent, qui solidarisent le miroir secondaire en face du miroir primaire. Donc de manière à pouvoir assembler le télescope tout seul, de pouvoir le charger tout seul. Donc on avait passé quelques soirées dans l'atelier avec Pierrick à travailler là-dessus. Après quoi, il l'a eu baptisé Michou, pour la petite histoire.
D'ailleurs là, il s'appelle New Michou.
Ouais, New Michou. J'ai gardé quand même les pièces, je n'ai pas tout bazardé, mais voilà. Et donc avec un marquage, avec tout un protocole de montage qui est ce qu'il est régulièrement dans les matériels d'astronomie. Il y a toute une cérémonie de montage du matériel. Et donc là, fin d'hiver...
Restait des défauts.
Ouais, il lui restait des défauts, c'est-à-dire que nous, bêtement, on avait coupé le tube... enfin simplement, disons, et on ne s'était pas soucié du centre de gravité, donc de l'équilibre de l'instrument. Mmh. Donc en fait, quand on le pointait vers l'horizontalité, eh ben, il repartait en arrière. Donc on a assemblé toute une série de lestes récupérées à droite à gauche pour alourdir la base, donc voilà, pour essayer de rattraper les pots cassés. Au fur et à mesure, on s'est dit, bon, ce serait quand même bien de refaire cette monture. Moi, j'avais un peu de temps au printemps et j'étais intéressé par justement la fabrication d'un instrument optique. Et donc, j'ai consacré une vingtaine de jours, disons, cumulés, à refabriquer un télescope, donc en gardant, comme Fred l'a indiqué, les optiques, donc, c'est-à-dire le miroir primaire. Le miroir, donc c'est un télescope Newton, donc la lumière vient réfléchir un miroir de 30 cm au fond du télescope, renvoyer la lumière vers un miroir de 45 degrés, en face duquel on va placer un oculaire pour pouvoir admirer le ciel et les objets qu'on va pointer. Donc j'ai eu l'avantage de pouvoir me baser sur un optique qui fonctionnait, donc j'ai pu prendre des mesures. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir la même démarche en achetant des miroirs simples seuls dans le commerce et puis dessiner une structure qui peut accueillir ces miroirs et après faire des essais. La difficulté, c'est pour ceux qui ont déjà manipulé des instruments, c'est la distance de mise au point. Elle est assez fine, donc il ne faut pas se tromper, en tout cas dans la conception. Donc j'ai passé à peu près la moitié du temps à la conception et à me demander quelle utilisation on allait en faire. C'est-à-dire que il y a pas mal d'inspirations sur lesquelles je me suis basé. Il y a pas mal d'artisans dans le sud de la France comme Subdobson, Dobson Factory, des gens très compétents qui font du travail de qualité sur des télescopes sur mesure, sur des séries, sur des kits aussi à assembler à partir de ses propres miroirs. Ouais. C'est très intéressant à voir. Donc, en fait, voilà, il y a une personne dont je voudrais mentionner le nom qui s'appelle Pierre Strock, qui est
un astronome amateur et qui a, en 2003, mis au grand public des plans de ce qu'on va appeler par la suite le Dobson Stroke 250. C'est-à-dire que c'est des plans qui peuvent s'adapter pour un miroir de 250 mm, ouvert à f5 à peu près, donc avec une distance focale de 1250 mm. Et donc c'était une aubaine pour tous les astronomes amateurs qui avaient envie de concevoir leur propre télescope avec leurs propres besoins aussi. Donc c'est des plans très clairs qui sont gratuits, accessibles à tout le monde sur Internet, et avec tout un tas de détails sur la fabrication, sur le choix des matériaux, sur l'outillage qu'il faut. C'est, voilà, on dit qu'avec une scie sauteuse et une visseuse, on peut fabriquer un télescope, quoi. Donc moi, ça m'a vachement parlé, ce genre de démarche, quoi. C'est en plus, on va à l'économie.
Ouais, voilà. C'est ça, les strokes qui sont connus pour être comment dire, compact et
très compact. Ils sont faits pour le voyage. Il y a des strokes qui ont été poussés à la légèreté pour pouvoir les transporter en cabine, en avion. Ouais. Et donc c'est avec des tiges en carbone de 4 mm qu'on trouve chez Decathlon pour réparer des cerfs-volants, des choses comme ça. Donc il s'est basé vraiment sur du matériel accessible à tout le monde. Et que et donc maintenant, on estime à peu près à 1000 exemplaires de strokes amateurs sur la planète. Qui sont en activité, qui peuvent aller dans des déserts, dans le coffre d'un 4x4, qui peuvent monter en haut d'une montagne, parce que lui, à la fin, il arrivait à 12 kg, à peu près, sur un 250. Donc après, voilà, le poids, c'est un peu exponentiel, c'est-à-dire que d'un 250 à un 300, ben, on va prendre 10 kg, d'un 300 à un 400, on va prendre 15 kg, enfin, voilà. Donc, voilà, cette inspiration de Pierre Strock, et merci à lui pour tous ses plans et toute cette démarche de mise à disposition, qui a fait une première série de plans en 2003 et en 2015. Pour ceux qui ça intéresse, je vous invite à aller consulter. Voilà, moi j'ai fait le choix de détourner à peine le procédé, bien que la base soit la même, c'est-à-dire que en fait c'est une boîte en bois qui s'ouvre en deux. La partie du bas sert d'articulation au télescope, c'est-à-dire qu'on est sur une structure Dobson. Donc c'est une monture azimutale qui tourne à l'horizontale et qui bascule à la verticale. C'est pas ce qu'on a l'habitude aussi de voir, les montures équatoriales qui sont axées parallèlement à la rotation de la Terre. Donc c'est comme un pied photo, mettons, posé par terre. Donc la boîte, elle est vachement ergonomique au moment quand tout est démonté pour charger dans le coffre de la voiture ou ci ou ça pour mettre sur le porte-bagages du vélo ou quoi. Bref, après je me suis dit bon, tout ça c'est bien, c'est hyper léger, mais nous ce qu'on fait avec l'Astro Club du Niwa, c'est beaucoup de l'animation, beaucoup de la proposition collective. Et quand il y a une cinquantaine de personnes qui passent derrière le télescope en une soirée, bon ben, il faut que ça tienne un peu le coup, il faut que ce soit un peu plus robuste. Donc voilà, j'ai fait un petit mix d'inspiration. Tout ça, c'était la partie conception, donc qui passe aussi par des plans sur ordinateur, forcément, avec les mesures que j'avais. Et du coup, après, c'est des caisses en bois, décider ça pour accueillir le miroir. Monsieur Dobson, il avait quand même bien prévu son coup. En fait, il faut savoir que ce type de télescope, il vient des années 50 pour rendre justement accessible l'astronomie au peuple sans que ce soit vraiment dédié au domaine scientifique. Du coup, lui, il a mis un télescope Newton sur une embase tournante, pivotante, au bas. Et le miroir, on se fait toujours toute une histoire du miroir, ce qu'on appelle le barillet du miroir primaire. Et en fait, on va calculer le nombre de points d'appui, les articulations, la dilatation avec la température, tout ça, c'est toute une histoire. Alors qu'en fait, Monsieur Dobson, bah, lui, il posait ça sur une plaque en bois avec un petit bout de moquette. Comme ça, le miroir en verre, eh ben, recouvert d'alumine. Bien sûr, qui donne cet effet réfléchissant, il était libre un peu de ses mouvements. Donc moi, je suis resté sur ce principe-là. C'est-à-dire que ce télescope-là, quand je l'ai démonté, c'était pas de la moquette, mais du papier bulle. Et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas constaté de déformation d'étoiles, d'aberration chromatique ou quoi. Donc voilà, je suis resté dans une simplicité. Voilà, c'était quand même une réalisation simple. Moi, j'ai utilisé une scie circulaire, une défonceuse pour faire les arrondis, une visseuse, bon, voilà, un petit bout d'atelier, une table. Donc c'est relativement accessible à tout bricoleur qui a envie de faire un optique. J'ai aussi lu dans des articles que, par exemple, pour faire un télescope, faut compter une centaine d'heures pour polir le miroir, une centaine d'heures pour fabriquer la monture, la penser et la réaliser. Voilà, bon, moi j'ai fait un petit peu moins en réalisant, puis j'ai pas eu besoin de poncer les miroirs, enfin de polir. Donc voilà, c'est une notion de base que j'ai envie de partager. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait de grandes réalisations en termes d'instruments, qui polissaient eux-mêmes leurs miroirs. Oui. Et c'est là qu'on peut avoir accès à des gros diamètres sans avoir à faire un prêt à la banque, quoi.
L'avantage qu'on avait quand même aussi, c'est qu'on partait sur une optique de qualité. C'est-à-dire ouais. que ce 300 quand on l'a acheté, on a fait un peu bonne pioche, quoi. C'est-à-dire autant la monture, bon, elle était ce qu'elle était. C'était une monture déjà artisanale hein, à l'époque, mais c'est vrai qu'elle n'était pas ultra bien conçue, puis elle avait un peu vieilli, pense, ouais, c'est ça, ouais. Le bois avait un peu, bon, un peu travaillé, tout ça. Mais par contre, dès le départ, on a vu que l'optique, elle était bonne. Le miroir est bien lumineux, on avait de jolies images, quoi.
C'était très net, ouais.
C'est aussi ce qui donnait envie ça de lui mettre une belle monture, parce qu'il y avait un beau miroir.
Quoi. Miroir d'artisan, ouais, Astam, hein, donc un fabricant qui n'existe plus maintenant, mais qui a fait beaucoup de choses. Dans les années 80 à 2000, disons. Et ouais, c'est un beau miroir, autour de F5.5, le rapport d'ouverture. Voilà, on en prend soin maintenant, parce que la lumine, quand même, elle est pas toute jeune. Et ouais, c'est un beau miroir. Voilà, moi, là où ça m'a vraiment intéressé, là où il a fallu calculer tout ça, c'est justement pour gagner en confort et en ergonomie, donc c'était le point de gravité. Donc à quel moment...
Le basculement, quoi.
À quel endroit on place le centre de gravité par rapport au tube optique. C'est-à-dire qu'il soit à l'horizontale, à 45 degrés ou quasiment à la verticale, le tube, il est en mesure d'être équilibré. Et donc ça va avec aussi le coefficient de frottement des matériaux qu'on va utiliser. Donc là, encore une fois, Pierre Strock, il annonce une alliance de matériaux de frottement entre le téflon et l'aluminium. C'est-à-dire qu'en fait, le télescope, quand il bascule de haut en bas, il est sur des espèces d'arches en bois qui ont une courbe, et donc dessus est recouvert de l'aluminium. Et toute cette pièce-là repose sur des patins en téflon. Et donc ça, c'est exactement le coefficient de frottement qu'il faut. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Si on veut remanier un petit peu, bouger l'instrument, eh bien, il y a juste une petite impulsion à mettre. Mais du coup, il y a juste la rugosité qu'il faut. Donc voilà, ça a été un petit peu tout ce travail-là, définir l'équilibrage et que ce soit agréable. En fait, un télescope Dobson, il faut que ce soit agréable. Il faut qu'on le fait danser en fait, pour pointer.
Il faut qu'il y ait de la bonne fluidité dans le mouvement.
Ouais.
Surtout les petits mouvements, je trouve, c'est les pires. Parce que des fois, on a des tout petits mouvements pour viser. Et si là, on commence à forcer pour gagner un tout petit peu, c'est trop compliqué. Donc.
Ouais, en plus, le Dobson, c'est tout manuel. Donc, il y a un suivi à apporter.
Ouais.
Donc, c'est vrai que...
Ça marche bien.
C'est tout un équilibre, voilà. Ouais. Et d'une soixantaine de kilos, on est passé à 20 kilos. Donc ça, c'est assez positif. Puis en plus, on est fiers, quoi. C'est l'Astro Club du Diwa. On a un modèle unique. Voilà.
Et qui est vraiment agréable à, comme tu dis, à faire danser le télescope.
Ouais. Alors,
moi, la première fois que j'ai observé sur un Dobson, moi, c'était il y a bien longtemps, mais ça m'avait vraiment séduit, quoi. J'étais épaté, en fait, du confort d'observation. Quand justement, on a ce bon réglage, ce bon coefficient de frottement, on a quelque chose où il n'y a pas besoin de forcer pour déplacer le télescope. Dès qu'on le lâche, il s'arrête, il reste exactement dans la position où on l'a mis. C'est hyper confortable. Il y a pas pour ceux qui ont un peu l'habitude des montures équatoriales, il y a les freins, les mouvements lents, les choses comme ça. Là, il n'y a rien de tout ça. Il y il y a quelque chose de, une, ça procure un sentiment de liberté dans l'observation qui est vraiment, vraiment agréable. Mm-hmm. Mais pour ça, effectivement, ça demande au niveau de la conception et de la réalisation quand même un certain savoir-faire et un degré d'équilibre, justement, mm-hmm. que là, t'as bien réussi à trouver, quoi.
Ouais, bah, c'est un joli coup d'essai. Du coup, ça me motive à...
Prochaine étape, un 600.
Ouais, bah déjà, refaire mon 400 sur le même principe, quoi, que ce soit plus transportable, que ça puisse passer les portes facilement. Et puis, pourquoi pas un jour, se mettre dans... Partir du miroir, partir d'un disque en verre et, et polir pour avoir accès à un gros diamètre, ouais.
Parce que là, on peut... l'intérêt aussi du Dobson, c'est quelque part son faible coût. Parce que c'est vrai qu'une monture équatoriale, déjà, ça coûte quand même assez cher, surtout celles qui sont un peu lourdes pour pouvoir supporter des gros diamètres. Donc là, on est sur un diamètre de 300. 300, ça commence déjà à être un joli télescope. Mm-hmm. C'est-à-dire que, déjà, à partir de... On va dire souvent, on a déjà présenté le matériel dans cette émission à certaines occasions. On a un peu le télescope un peu de base, c'est le 115-900. On va en reparler avec toi, Alex. C'est un peu la porte d'entrée vers l'astronomie. Mmh. Ensuite, on peut dire qu'il y a la gamme des 200. Mmh. Il y a tout un tas de télescopes qui sont là. Au-delà, on commence déjà à 250, 300. On commence à avoir des jolis diamètres. 400, c'est déjà un gros télescope amateur. Mmh. Après, il y en a qui ont des 600. Bon, ben là, ça devient vraiment gros. Pour ceux qui ont pu venir à la première édition de Marignac Fête les Étoiles, il y avait un 650.
635.
Petit salut à toi, JB.
Et,
et c'est déjà une sacrée usine à gaz. Enfin, c'est énorme.
Mais surtout, je trouve que c'est à partir de 250, 300 qu'on peut tout voir dans le ciel. En dessous, on va être limité un peu dans ce qu'on va pouvoir voir. À partir de 250, 300, on peut tout voir. Et après, si on prend plus gros, on va juste voir mieux. Oui. Et on ne verra pas forcément plus de choses.
C'est vrai.
À quelque chose près.
Et puis là, donc là, on a cette facilité, comme tu dis, cette légèreté, et il y a aussi une question de prix. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire ça, les montures déjà ça coûte cher. Donc là, d'autant plus quand la monture c'est toi qui l'a construite. Donc on peut donner des chiffres, mais il y en a eu à peu près pour, c'est-à-dire entre 500 et 600 euros de matériel pour refaire la monture. Donc là, évidemment, il n'y avait pas les miroirs dedans. Mais nous, en fait, ce télescope-là, on ne l'avait pas acheté très très cher. Hein, parce qu'on avait eu trois télescopes pour 600 euros, dont celui-là. Donc en fait, au final, ça fait des budgets qui sont quand même accessibles. Alors par contre, il faut quand même... Là, tu dis que c'est accessible à tout bricoleur. Moi, j'en suis incapable. Ça te demande déjà quand même des petites connaissances.
T'es pas bricoleur.
Je suis pas très. Voilà,
c'est ça.
Moi, je peux faire des étagères, des choses comme ça. Mais un télescope, non. Voilà. Donc ça demande quand même déjà une bonne pratique, je trouve, du bois, de tout ça. Quoi. Et puis la capacité aussi de faire les plans,
de conception,
tout ça. Donc il y a quand même des petites compétences, mais. Au pire, quelqu'un qui a envie de s'y mettre, il va peut-être y passer plus de temps, mais il va y arriver.
Et puis, il y a beaucoup d'infos vraiment accessibles, quoi. C'est ça qui est plaisant. Il y a toute une communauté qui est motrice pour tout ça, quoi.
Ouais. Bien.
Et écoute, merci.
Oui, merci pour ce retour et pour ce télescope.
Et pour tout ce travail.
Et puis, au plaisir d'accueillir encore et encore des personnes intéressées, des yeux, des âmes. Ouais. C'est fait pour vivre.
C'est ça, c'est un peu le but, c'est de pouvoir partager en fait ce plaisir de l'observation en astronomie. Alors, eh ben, merci Rémi. On va passer donc à la suite avec toi, Alex. Donc toi, justement, tu démarres en astronomie ou tu as laissé l'astronomie en suspens pendant un temps ou que, c'est quoi un petit peu ton parcours?
En fait, je débute totalement.
Tu regardes la première marche, on pourrait dire.
Oui, c'est ça.
Je suis
au pied de la première marche. Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a amené à t'acheter un télescope et avoir envie de mettre l'œil à l'oculaire?
En fait, ce télescope, c'est un télescope que j'ai récupéré de mon père et qu'il utilisait quand j'étais petit, quand j'avais 5-6 ans. On habitait dans le nord de la France où l'horizon est assez bas, et du coup, au niveau de l'observation, c'est assez chouette, même si des fois, il y a un peu la lumière des villages qui gêne un peu l'observation. Mmh. Et du coup, j'ai vraiment ces souvenirs que quand j'étais petit, on prenait, la voiture le dimanche soir et on allait au milieu des champs de betteraves et de patates planter le télescope. Voilà. Et en fait, ça s'est arrêté assez vite. C'est des souvenirs qui sont très lointains.
Tu as des souvenirs de ce que tu voyais ou pas ?
Je me rappelle juste de la Lune, c'est tout.
Ah ouais.
Ce qui est déjà impressionnant et qui reste toujours un plaisir même après toutes ces années.
Hein. Bien sûr.
Ouais. Et du coup, par la suite, je suis quelqu'un d'assez assez casanier. Donc, le rapport aux étoiles, c'est beaucoup passé par les livres, notamment. Mm-hmm. J'avais beaucoup de livres pour enfants dans les années 80 qui parlaient des étoiles. Et c'est toujours... C'est quelque chose qui... Enfin, le fait de regarder les étoiles, c'est toujours quelque chose qui est resté un peu en fond. Je ne me suis pas lancé trop dans le sujet. Et il se trouve que là, récemment, donc je suis allé à, la Marignac Fête les Étoiles, il y a 2-3 ans, je crois. Et donc, on a pu faire des observations avec Axel, avec différents instruments. Et je me suis dit, ah tiens...
Ça me rappelle quelque chose.
Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Et donc j'en ai parlé à mon père et du coup il a reparlé de ce télescope que j'avais un peu oublié, qui était resté.
Il l'avait gardé tout ce temps.
Il l'avait gardé tout ce temps et je me suis dit peut-être qu'il fonctionne encore, qu'on peut le remettre en route. Voilà. Donc Axel est venu m'aider à nettoyer le miroir, à l'installer, m'expliquer comment on le règle, tout ça. Mm-hmm. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'il y a encore des petites choses à faire pour qu'il soit fonctionnel. Mais... Ouais.
Voilà. C'est en cours.
C'est en cours.
C'est imminent.
C'est un d'accord. Télescope polyvalent, 114-900.
Ouais. 114-900,
oui. Ouais, mais c'est une jolie petite porte d'entrée. Hein. C'est déjà un télescope. On peut effectivement, comme tu dis, observer la Lune. On peut observer les planètes, Jupiter, Saturne.
Les grands objets
et puis les gros objets Messier, M13 et d'autres. Hein. Il y a déjà de quoi faire.
La nébuleuse d'Orion qui arrive.
Oui.
Puis c'est un bel objet, je trouve. Fabrication japonaise des années 80 avec le télescope blanc, le trépied en bois, bois sombre un peu. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a de la gueule.
C'est un Takahashi ?
Non, c'est un Chris.
Ça pourrait, je ne sais pas moi.
Ouais, ça, c'est un Chris, okay. Comme les lunettes.
Ouais.
Ouais. Qui ne font plus de télescope, je crois, aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu sur Internet, mais non, je n'ai pas l'impression. J'ai trouvé... des vieilles docks de ce modèle de télescope, en tout cas.
Ça doit être une bonne optique.
Moi, je pense.
Bon, mais super. Du coup, est-ce que tu t'es mis un peu à prendre les constellations, à te repérer un petit peu dans le ciel, ou c'est quelque chose que tu connais
un
déjà?
Un petit peu, ouais. En fait, j'ai un rapport beaucoup, paradoxalement, en fait, j'ai beaucoup un rapport aux livres. Mm-hmm. J'ai beaucoup lu de livres sur l'astronomie, des choses vraiment très... pour les amateurs, et puis je commence à attaquer des livres un peu plus techniques que j'ai trouvés dans des braderies ou dans des bibliothèques libres. Ouais. Et il y a eu un petit moment, une dizaine d'années, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Celestia et qui permettait de simuler en fait la trajectoire des astres et tout ça. Et donc d'avoir des renseignements aussi, des renseignements précis quoi, sur les planètes, les étoiles, tout ça.
Ça c'est vachement bien quand on démarre.
Ouais.
Bon, maintenant les applications qui sont un petit peu passées par-dessus, c'est vachement bien. Moi j'ai commencé par ça vraiment. J'ai été attiré vraiment et puis avoir une source d'information et une connaissance de la mécanique céleste directe en fait. Hein. Mmh. On peut avancer d'heure par heure, même se projeter dans le calendrier.
Ouais.
C'est vachement ludique.
Ouais.
Oui, puis ça permet d'apprendre tout seul aussi. Mmh. Forcément, si on n'a pas forcément de lien avec quelqu'un qui connaît l'astronomie et qui peut nous montrer, ça a cet avantage quand même énorme de pouvoir apprendre le ciel tout seul et de commencer, quoi. Mmh. Ok, et donc tu vas probablement commencer les observations bientôt. Mmh. Qu'est-ce qui te fait un peu envie d'observer comme ça
Là, je ne saurais pas trop quoi dire. Mais...
à voir, quoi.
Mais je verrai, ouais, sans avec Axel, faire...
Ah ouais.
Voilà ce qu'on peut faire aussi techniquement avec cet instrument-là. Et je veux dire quelque chose, dans ma vie, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup discuté du ciel avec plein de gens dans des contextes de fin de soirée où il y avait un ciel dégagé, voilà, tout ça. Et je suis toujours surpris par en fait le peu de connaissances qu'ont la plupart des gens sur le ciel, enfin sur ce qui se passe dans, dans l'espace. Et des fois, ça peut être des choses très simples, par exemple de la forme de la galaxie, des distances, les distances entre les étoiles. Et beaucoup de gens ne savent pas du tout. Et je me dis que ça serait chouette de promouvoir, enfin que les gens lèvent un peu la tête, quoi.
C'est un peu ce qu'on essaye de faire
depuis quelques
années dans cette émission
avec notre association, avec mon entreprise aussi. Ouais, c'est un peu notre vocation qui nous lie autour de cette table. Ouais.
Ouais, mais
il y a
des sondages de savoir, je ne sais plus combien, un tiers des gens qui pensent que le Soleil tourne autour de la Terre.
Oui.
Enfin, c'est des pourcentages qui sont énormes. Ouais. Ou même si on demande aux gens c'est quoi une éclipse, c'est pas clair pour tout le monde du tout.
Oui.
Là, il y a un gros défaut de l'école, quoi.
Je vois plein, beaucoup de monde dans mon public qui. Je fais exprès d'aller chercher cette réponse, mais elle arrive à chaque fois que la Lune ne tourne pas sur elle-même, par exemple, puisqu'elle nous montre toujours la même face. Et
voilà, si.
des choses comme ça.
Si.
C'est vrai.
Du coup, c'est intéressant de pouvoir apporter un peu des petites connaissances toutes simples. Donne envie aux gens de s'y intéresser aussi.
Ouais. Bah après, même si effectivement le niveau de connaissance scientifique, on va dire, il est plutôt faible. Ouais. Par contre, il y a énormément de gens qui ont une forme de fascination pour le ciel.
Ouais.
Ça, par contre, et puis c'est transversal, ça n'a aucun rapport avec le milieu social ou les idées politiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacun face avec lui-même et face au ciel. Ouais. Et il y a quand même énormément de gens qui ont quand même une attirance pour le ciel, même si... Ne serait-ce qu'esthétique.
Oui.
Regardez les étoiles, c'est beau. Ouais. Enfin, moi, d'ailleurs, j'ai commencé comme ça. Un gamin, ça a commencé comme ça. Juste, c'est beau.
C'est beau.
Et voilà. Et après, aussi. Et du coup, ça donne envie. Après, on remarque aussi qu'il y a, de la peur chez certaines personnes. Ça angoisse.
Ouais, j'en ai rencontré.
Il y en a quand même.
Une sorte de vertige.
Oui. Ouais. C'est pas négligeable. Hein, en fait, il y en a quand même un certain nombre pour qui penser à l'espace, à cette immensité, à tout ça, ça génère une angoisse.
Je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même un manque d'apprentissage de tout ça. Là. J'ai l'impression que ça fait peur à beaucoup de gens finalement. Et que...
Parce que c'est inconnu.
Ouais, il y a un côté comme ça où on va pas chercher quoi.
Peut-être. Moi,
c'est
je pense.
C'est hors norme.
C'est hors norme. Notre cerveau, des fois, il n'est pas en capacité de comprendre tout ce qui se passe.
Je pense qu'il y a aussi un gros manque de formation chez les enseignants en fait.
Aussi,
il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas les connaissances en fait. Parce que l'astronomie, au final, c'est très peu enseigné en réalité. Alors que c'est une branche majeure des sciences depuis très longtemps.
Ouais.
C'est vrai qu'au niveau des cursus scolaires, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir traité ce sujet.
En fait, les profs le font si eux-mêmes s'y intéressent. Prof de physique ou des fois le prof de sciences nat.
C'est ça, moi, j'avais eu en physique un petit peu d'astro au collège, en cinquième peut-être. Ouais.
Mais sinon, ça passe vite à la trappe.
C'est tout.
C'est surtout en primaire, les planètes, les fusées.
Mais... Ah ouais, alors que officiellement, c'est dans les programmes par cycle. Donc, à la fin du primaire, tu dois savoir le système solaire et le système Terre-Lune. Au secondaire, tu dois savoir peut-être la galaxie. Enfin, y a différents niveaux comme ça qui sont inscrits dans les programmes, mais après, il y a des problèmes de temps pour appliquer ci ou ça.
Et de base.
Et voilà, de connaissances propres de l'enseignant aussi.
Parce qu'un enseignant qui débarque à la Villette, en voyage scolaire ou quoi, s'il n'a pas des bases, il est largué. Hein. Moi, j'ai été, il y a un an, j'ai appris plein de choses. C'est très pointu.
C'est un super milieu.
À la Cité des Sciences. Mais c'est super. Hein. Il faut consacrer au moins une journée.
Il faut y aller plusieurs jours.
Ok, Alex, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, c'était intéressant ta remarque sur le fait que contempler le ciel, ça pouvait être angoissant. Moi, je vais parler d'un petit truc personnel, c'est que moi, actuellement, comme beaucoup de gens, je suis très angoissé par l'avenir. Et du coup, de me replonger dans un truc un peu immense, par exemple des choses liées m'intéresser à la géologie, formation. Ça ramène à des échelles de temps qui sont tellement énormes sur des milliers, des millions d'années, des milliards d'années. Et pareil, le rapport à la distance avec l'astronomie. Je trouve ça... Enfin, moi, au contraire, ça fait quelque chose de très apaisant de me dire, en fait, tout ça, c'est là. Et ça sera encore là après nous, quoi. Et du coup, quelque part, ce qui nous arrive, c'est pas si grave. Enfin, ça...
Ah ouais, je partage. C'est apaisant. Aussi, ouais, de voir c'est quelque apaisant. Chose de plus grand. Ouais. Qu'on a beau s'agiter, ça oui. change pas grand-chose.
Ça fait tout relativiser.
Ouais. Ouais, voilà.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va... L'humain, il n'a pas la capacité de détruire la Terre. Il peut, par contre, détruire non. les conditions de vie favorables à sa survie. Mais ça ne ouais. va pas détruire et la Terre pour autant. Et... Et à toutes les espèces. Quasiment. À la même occasion.
À part les cafards. Ouais.
Oui. Les scorpions. Ouais. Et les tardigrades.
D'ailleurs, sur le sujet de la durée de vie de la Terre, on a... ce sont des débats avec les gens qui disent oui, mais de toute façon, on a, je ne sais plus, 4-5 milliards d'années avant que le soleil explose. Ouais. Et là, il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans et qui disait que dans pas si longtemps, genre c'est dans 500 millions d'années, je crois, la surface de la Terre, elle sera à 50 degrés partout.
Oui, oui.
Je ne sais plus pour quelle raison. Il y a des... Bon, après, c'est une simulation, mais du coup, finalement, on a moins de temps que ce qu'on pense.
Oui, ouais. Puis dans 4, voilà, 5 milliards
pour les angoisser.
Voilà, c'est vraiment, vraiment la fin.
Encore voilà, 500 millions d'années, ça va aller.
Voilà, ça va aller.
Eh bien, merci Alex pour tout ça. On espère que tu vas prendre plaisir à utiliser ton télescope quand il sera remis en état. Et puis, si tu veux revenir nous raconter tout ça, ce sera avec plaisir. Ouais. On va passer à la pause musicale. Cette semaine, ça va être un petit morceau de Pink Floyd, Astronomy Domain. retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors, on va continuer cette émission avec la chronique astrale. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler de Giordano Bruno. Alors, c'est peut-être pas le nom le plus connu de l'histoire des sciences, mais à tort. Bon, en tout cas, en astronomie, il a un rôle assez important. Donc, ce monsieur est né en 1548 à Nola, en Sicile. Et il est mort à Rome en 1600. Donc, ça cadre un petit peu la période. Donc, c'est après Copernic et c'est avant Galilée.
Avant Galilée, oui.
C'est ça que je voulais dire, voilà, pour un petit peu caler. On rappelle que c'est Galilée le premier à avoir pointé un instrument d'optique vers le ciel. Donc là, on est avant les observations au télescope, quoi. Alors, ce Giordano Bruno, c'était un frère dominicain, un théologien, un philosophe, un mathématicien, un astronome et un occultiste. Il s'intéressait aux sciences occultes aussi. Donc, lui, il a fait ses études à l'université de Naples, où il se passionne pour les sciences, mais aussi particulièrement pour la mnémotechnique. Donc, tous les moyens d'apprendre et de mémoriser les choses. C'est quelque chose qui le passionnait.
Déjà à cette époque.
Oui.
Ah ouais.
Et déjà, il trouve qu'à l'université, il trouve que l'enseignement est assez pédant. Ça ne lui convient pas tout à fait. Alors, il devient lecteur en théologie. Donc, je vais commencer d'abord par parler de sa vie, et puis je reviendrai un petit peu après sur son travail. Okay. Donc, il est devenu lecteur en théologie, donc il était quand même réputé pour son intelligence, il était très doué. Mais peu à peu, il va se détacher un peu du carcan théologique et il va s'intéresser à la magie. Il va s'intéresser aussi à la cosmologie. Donc, cosmologie au sens la création de l'univers, quoi. Les modèles d'univers. Et il commence assez vite, en fait, il se fait remarquer parce qu'il enlève de sa chambre toutes les images saintes, en particulier celles de Marie. Et du coup, il est accusé de profaner le culte marial. Donc ça, ça commence comme ça. Alors, il se retrouve quand même envoyé à Rome, dans l'entourage direct du pape, parce qu'il est très intelligent et il a aussi d'énormes connaissances en linguistique, donc qui sont utiles pour le pape, quoi. Mais là aussi, il se dispute avec ses aînés. Donc, en fait, et ça, c'est un truc qui est récurrent dans toute son histoire. En fait, partout où il va,
c'est un rebelle.
Il conteste l'autorité, il conteste les gens qui sont plus âgés que lui, qui ont des positions plus élevées, et il ne va pas arrêter de le faire, quoi. Donc, à tel point qu'en 1576, il y a une enquête de l'Inquisition pour hérésie qui est lancée contre lui. Et donc, il abandonne tout. Donc il abandonne, il défroque en fait, et il s'enfuit. Et donc là, en fait, il va rentrer dans une période d'errance qui va durer jusqu'en 1592. Donc ça fait quand même 16 ans.
Ah ouais.
Donc au début, il est toujours en Italie, il essaye de donner des leçons de grammaire et d'astronomie, mais il a le statut de apostat. Apostat, c'est-à-dire qu'il a renoncé à la religion. On est quand même au XVIe siècle. Donc c'est un peu compliqué pour lui et il se retrouve donc à devoir quitter l'Italie, qui était quand même particulièrement chrétienne à l'époque. Ouais. Donc il va se retrouver à Chambéry, puis à Genève. Donc là, il évolue dans des cercles protestants.
Ah, oui.
Et là encore, il va contester la compétence d'un professeur de philosophie et il va être excommunié par les protestants en 1578.
Waouh, le mec.
De là, il part pour Lyon, puis Toulouse, où il enseigne pendant 2 ans. Et là, il va attirer quand même l'intérêt du roi Henri III, qui va l'inviter à sa cour, à Paris, et qui va le protéger. Donc là, il va connaître 5 années. Sous la protection de Henri III, donc un petit peu quand même à l'abri. Donc là, il va publier plusieurs ouvrages dans lesquels il critique beaucoup Aristote pour défendre le système de Copernic. Donc l'idée la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est bien le Soleil qui est au centre du système solaire et les planètes qui tournent autour. Ça, c'est le système de Copernic qui est naissant, en fait, à l'époque, quoi. Donc, il va voyager aussi en Angleterre. Et là aussi, il va rencontrer un accueil très hostile parce qu'il est extrêmement critique envers l'Église anglicane. Donc ça atteint un tel point en fait que même le roi Henri III ne peut plus le protéger. Donc là, en fait, il va partir pour l'Allemagne en 1586 et ça recommence. Il va s'opposer à la hiérarchie et il va être exclu de l'Église luthérienne.
Il va se griller partout. Là.
Donc il s'est grillé dans toutes les cours européennes de l'époque et dans toutes les religions, toutes les formes de christianisme, que ce soit l'Église anglicane, l'Église protestante, l'Église luthérienne, voilà, tout le monde l'a mis dehors en fait.
C'est un pionnier.
Donc finalement il va se retrouver à Venise sur invitation d'un jeune seigneur, mais là encore ça se passe mal et en fait ce seigneur va l'emprisonner et le dénoncer à l'Inquisition. Ah oui. Donc, il va être incarcéré. Et là, va entrer la dernière phase de sa vie, un procès pour hérésie qui va durer 8 ans. Donc là, de 1592 à 1600. Donc, c'est-à-dire que pendant 8 ans, il va être... donc, il est en prison, il est torturé, soumis à la question. Hein, et il ne va jamais se renier. Jamais, jamais, jamais. Il dira, non, ce que je dis, c'est pas vrai, etc., etc. Donc, en fait, il réussit quand même à s'en sortir plus ou moins, à argumenter, à convaincre et tout. Et bon, c'est quand même pas évident dans un procès pour hérésie. Mais en fait, le pape, en personne, va intervenir en disant « Non, mais c'est pas possible, en fait. Je veux que cet homme soit condamné. »
Ah ouais.
Et donc, il a toujours refusé de se rétracter. Et finalement, il est condamné au bûcher. Et donc, quand même, pour la petite histoire... Même donc, quand il est amené au bûcher, les gens l'insultent, etc., etc. Et lui, il continue à argumenter, à se défendre, à répondre, à tel point que les bourreaux décident de lui clouer la langue sur un morceau de bois. Et qu'ensuite, une fois brûlé, en fait, tous ses restes vont être réduits en cendres à coups de marteau et ses cendres dispersées au vent.
On ne veut plus en entendre parler.
Voilà pour l'histoire de Giordano Bruno, qui meurt donc dans ce supplice en 1600.
Et lui, il a inspiré quelle idée ?
Alors, j'y viens. Pardon. Donc, voilà, justement, voilà pour sa vie. Donc là, je vais revenir un petit peu sur ses travaux. Et sur... mais oui, il a inspiré Galilée. Sur ses travaux et sur ses croyances. Puisque là, on parle quand même de quelqu'un qui, en fait, est... Quelque part, c'est surtout une sorte de philosophe, parce qu'il n'a pas réellement de capacité d'observation. Enfin, expérimentalement, il n'a pas forcément fait grand-chose, en fait.
Oui, oui. C'est quand même un scientifique.
C'est un scientifique, mais de l'époque. Donc, la démarche scientifique, on est avant Newton, on est avant Galilée.
C'est à partir de Galilée qu'on parle de scientifique, vraiment.
C'est ça. C'est-à-dire,
il a fait des études, quoi. Enfin, tu vois,
il a fait des études, mais qu'est-ce qu'il apprenait ?
C'est un érudit, ouais.
Il apprenait Aristote, donc des choses, et puis la religion, en fait. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a un premier truc où, justement, effectivement, il ouvre la voie aux travaux de Galilée, c'est sur la relativité du mouvement.
Ouais.
C'est-à-dire que Aristote, lui, il pense que la Terre est immobile dans l'univers. Donc, voilà, la Terre est au centre de tout, du monde, de la création, et elle est immobile. Et la preuve que donne Aristote, c'est de dire, si je lance une pierre du haut d'une tour, la pierre, elle arrive au pied de la tour. Or, si la Terre bougeait, eh bien, la pierre arriverait décalée, puisque le temps de la chute, la Terre aurait bougé. Donc, ça, c'était la démonstration d'Aristote, pour prouver que la Terre était fixe. Mais Giordano Bruno, lui, il dit, en fait, c'est pas vrai. Parce que si je me mets sur un bateau et que je lâche la pierre du haut du mât, eh bien, ce bateau, il bouge, mais la pierre, elle arrive quand même en bas du mât. Oui. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire nous-mêmes dans le train ou dans une voiture. C'est-à-dire que si on a, à condition que cette voiture se déplace à vitesse constante, s'il y a une accélération, là, c'est différent. Ou si on a un mouvement circulaire, là, c'est différent. Mais si on a un mouvement rectiligne uniforme, eh bien, en fait, c'est indissociable de quelque chose d'immobile.
C'est comme le pendule de Foucault, là. C'est un peu la même...
Pendule de Foucault... Lui, il met en évidence la rotation de la Terre.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a le mouvement...
Oui, en tout cas, que le mouvement est décorrélé du mouvement de la Terre.
Oui.
Oui.
Mais ouais, donc ça, c'est vraiment le premier pas de la relativité. Quoi.
C'est exactement ça. C'est les premiers pas de la relativité. Et c'est surtout, en fait, les prémices de ce qu'on va appeler un système mécanique et même de la notion de référentiel, en fait. Et donc, c'est en ce sens qu'il ouvre la voie aux travaux de Galilée sur la mécanique. Et cette notion de référentiel, elle est cruciale pour la relativité restreinte et générale, en fait, derrière, en fait.
De l'observateur.
Einstein, il a beaucoup réfléchi au problème de référentiel pour développer sa théorie de la relativité.
300 ans plus tard.
C'est ça. C'est ça. Là, on est à la fin du XVIe siècle, quoi. Donc ensuite, il y a toute l'histoire de Copernic. Alors, je vais quand même brièvement mentionner Copernic, qui vient avant. C'est un astronome polonais qui est né en 1473 et qui est mort en 1543. Donc, en gros, Copernic meurt quand Giordano Bruno commence à réfléchir à ses propres théories. D'ailleurs, au passage, Copernic, il a gardé sa pensée pour lui pendant 36 ans. Avant de la publier sous forme de petite brochure. Et a priori, c'est non pas par peur, en fait, des conséquences, mais parce qu'il n'était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr de lui, déjà, parce que d'une part, il est polonais et que l'endroit où il vivait, il y avait beaucoup de nuages et que donc, il ne pouvait pas observer autant qu'il voulait. Et deuxièmement, parce qu'en réalité, lui, il observait donc, le mouvement des planètes. Donc, ils avaient des espèces de compas, en fait, pour mesurer la hauteur et voilà, la position des planètes. Et il essayait de faire des calculs, mais lui, il était quand même dans un système aristotélicien, au sens où, pour lui, les trajectoires des planètes devaient être circulaires, des cercles parfaits. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est Kepler. D'ailleurs, je vais faire une émission très prochainement sur Kepler, qui a montré que non, en fait, c'était des ellipses, dont le Soleil était l'un des foyers. Et donc, c'est des cercles, mais légèrement déformés. Donc, en fait, il n'arrivait pas, Copernic, à faire exactement coller, même avec son système de mettre le Soleil au centre, il n'arrivait pas à faire coller exactement ses observations avec des trajectoires circulaires, pour la bonne raison qu'elles ne l'étaient pas. Donc, il se disait, bon, il y a quand même un problème, je ne suis pas complètement sûr de moi. Donc, c'était plus une sorte de rigueur scientifique qui, a priori, l'a retenu de diffuser ses idées. Ouais. Mais quand même, à la base... Il y avait cette idée que, OK, on fait des observations, on voit le mouvement des planètes dans le ciel. Et il dit, mais en fait, le système d'aristotélicien, si vous avez un peu regardé, c'est hyper compliqué. Parce que comme, en fait, la Terre n'est pas au centre, on se retrouve, en fait, avec des planètes qui se déplacent, OK, en cercle autour de la Terre, mais en fait, qui étaient sur des petits cercles qui, eux-mêmes, et encore d'autres petits cercles à l'intérieur, pour essayer...
Parce qu'ils avaient déjà vu le mouvement rétrograde, du coup, c'était hyper complexe.
En fait, ça devenait hyper compliqué. Et Copernic a dit, non mais attends, si je mets en fait le Soleil au centre, d'un coup, tout est simple. Et donc, ça doit être ça. C'est quand même de ça que c'est venu l'idée au départ. C'était pas forcément philosophique, c'était vraiment mathématique, quoi.
D'observation, ouais.
Donc, voilà. Donc, et ça, c'est quand même aussi la base, justement, on parle de démarche scientifique. Quoi. Donc, en fait, Giordano Bruno, il a tout de suite l'intuition que c'est ça qui est correct. Et donc, il va vraiment se référer à ce système copernicien. Mais il va aller plus loin. C'est-à-dire qu'il dit « Il n'y a aucun astre au milieu de l'univers, car celui-ci s'étend également dans toutes les directions ». C'est-à-dire qu'en fait, lui, déjà, il dit l'univers n'a pas de centre. Donc, ce qui va encore beaucoup plus loin
que ce que disait
Copernic. Copernic, il dit non, la Terre n'est pas le centre, c'est le Soleil, le centre du système solaire. Mais Giordano Bruno, il dit non, mais en fait, l'univers, il n'y a pas de centre. Donc là, on est sur une intuition cosmologique avec 350 ans d'avance, en fait. Enfin, au moins 300 ans. C'est-à-dire que pour lui, le monde, il est infini. Et donc, c'est la fin de ce qu'on a appelé la sphère des étoiles fixes. C'est-à-dire que dans toute la pensée humaine avant, on avait ce qu'on appelait toujours la sphère des fixes, c'est-à-dire ces étoiles qui sont là, qui ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Et pour la première fois, c'est Giordano Bruno qui introduit l'idée, en fait, que non, le ciel, il est en trois dimensions. On a une profondeur et que c'est infini. Ça, c'est le premier à avoir pensé ça, en fait.
Ça, déjà, c'est beau. Il existe une infinité de terres.
Alors, j'y viens.
Une infinité d'étoiles.
Il dit aussi,
dans un univers,
il y a donc d'innombrables soleils. Et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils. Oui, donc 400 ans avant la découverte de la première exoplanète,
incroyable.
Lui, il dit, en fait, il y a ça. En fait, les étoiles que je vois, c'est des soleils c'est, oui. et il y a des planètes autour. Donc quand même, là, chapeau. Alors après, il a d'autres, il va encore dans d'autres directions. Donc lui, par exemple, il pense que tout est vivant.
Ah ouais.
Tout. Et donc, il fait l'unité des religions. Donc quand même, il dit, j'ai découvert l'identité de toutes les religions et donc, je n'en remets aucune en doute. Car la divinité m'apparaît en toute chose, du grain de sable à l'étoile la plus éloignée, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Waouh, c'est beau.
Donc on a quand même un penseur large.
Quoi. Ouais.
Et donc, aussi une des raisons... Donc, c'est aussi pour tout ça qu'il a été condamné. C'est pas juste parce qu'il a enlevé les images de Marie dans sa cellule. Ça, c'est ces idées-là, elles vont à l'encontre du dogme de l'Église, mais tellement fort
ouais,
que
ouais.
c'était intolérable. Mais
il devait même pas comprendre les autres, non ?
Je pense.
Ouais, franchement, c'est
pas concevable.
Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il dit ?
Et là où il va encore plus loin, c'est que lui croyait en la réincarnation. C'est-à-dire qu'il dit « Toutes les âmes font partie de l'âme de l'univers. » Et tous les êtres, à la fin, sont un. Chaque acte apporte sa récompense ou sa punition dans une autre vie. Le passage dans un autre corps dépend de la façon dont il s'est conduit dans l'un. Le but de la philosophie est la découverte de cette unité. Donc là, on est en pleine du Gange, contrefort de l'Himalaya. C'est clairement de l'hindouisme, du bouddhisme, avec la notion de karma. Voilà, en Occident, en 1600.
Peut-être qu'il y a eu des influences indiennes.
Il y a très peu de chance.
Ouais, ça paraît pas possible.
Les Vénitiens, ils commerçaient pas mal quand même. Mmh.
C'est sa philosophie. C'est lui qui avait ses... Là, on peut parler de croyances, hein, parce qu'on peut pas, ouais. on peut
oui,
pas
bien sûr,
trouver ouais. tout ça. En tout cas, voilà. Voilà pour Giordano Bruno.
Mais c'est sûr, dans une Italie avec en pleine Inquisition.
C'est ça.
Penser ça, c'est
ça décale
c'est fort.
Un peu, ouais.
C'est fort.
Et d'où, voilà, quand même, je disais, pendant 8 ans, il a été soumis à la torture pendant son procès. Il s'est jamais rétracté. Et il s'en sortait encore à peu près. Il a fallu que le pape en personne intervienne en disant non, mais toi, c'est non.
Ouais.
Et toi, tu vas au bûcher, quoi. Donc voilà, il s'est jamais rétracté, ben, contrairement à Galilée.
Ouais.
Qui lui donc arrive un peu plus tard hein, en fait c'est 15-20 ans plus tard en fait hein, que Galilée publie en fait ses travaux.
Oui, ils sont contemporains quand même.
Galilée arrive un peu après.
Ouais, ouais.
Ouais.
1610.
À 1610 les premières observations de Galilée. Voilà. Ouais,
donc,
ouais.
Donc lui il meurt en 1600.
Ouais.
Oui d'accord.
Il est juste avant en fait.
Ouais, ouais.
Voilà ce que
justement,
j'avais.
Il a servi d'exemple pour Galilée qui s'est dit je vais pas finir comme l'autre là.
l'autre,
je veux peut-être dire que voilà. Je me suis peut-être trompé.
Ouais. Lui il est vraiment entre Copernic et Galilée. Mm. Donc c'est pas forcément le nom le plus connu de l'astronomie. Enfin son nom est peut-être connu, mais moi j'avoue que j'ai aussi appris pas mal de choses. J'avais pas mesuré à quel point cet homme était en avance sur son temps et à quel point c'était un rebelle, quoi. Ouais. Un libre penseur vraiment.
Ouais, c'est ça. Il a une statue à son effigie aujourd'hui, à l'endroit où il a été brûlé.
Tout à fait.
Qui a été érigé il n'y a pas si longtemps, je crois. Et moi, je crois que ses phrases préférées, de ses citations préférées, c'est « Et tandis que de ce globe, je m'élève vers d'autres globes, pénètre au-delà du champ de l'éther, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin.
» Eh bien, on va conclure là-dessus.
Visionnaire.
Oui. Très bien, merci.
Merci Fred.
Et ben, avec plaisir. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite de belles observations et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.
Bon dimanche.
Ciao.